Nous sommes en octobre 2019. Je cherche un lieu pouvant accueillir un événement dans la ville de Douala quand je tombe sur un endroit assez particulier, un lieu où s'entremêlent l'art, la littérature et l'innovation. L'innovation est ici la représentation camerounaise de l'espace de coworking et incubateur nommé Joko Labs. Ça m'intéresse et je décide de le découvrir. En février dernier, les responsables de ce centre où gravitent les idées et les entrepreneurs accepte de m'ouvrir ses portes. Bienvenue sur la toute première édition de N.com, le podcast du numérique, des médias et de l'innovation, préparé et présenté pour vous par René Nkoa. Pour cette édition, je me suis entretenu avec William Pado, le lead manager de Joko Labs Douala, qui s'est fait un plaisir de me présenter la structure qu'il dirige. Par la suite, vous écouterez Malena Janté et Noël Emenendame, qui représente l'association Solidarité Technologique, qui est spécialisée dans le recyclage des déchets électroniques. Vous écouterez aussi Franck Dakaï, qui dirige Easy Travel, une start-up qui développe des solutions de tourisme et de voyage.
Je m'appelle William Pado, je suis en charge de Joko Labs Douala.
Et ça, c'est depuis combien de temps?
Je suis en charge de Collabs Douala depuis décembre 2019, très exactement.
Et Collabs, est-ce que tu peux m'en parler de manière un peu sommaire? Ça veut dire la date de création, les missions que vous remplissez ici?
Collabs est fondé par Karim Si. Ça existe dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire, en France, au Sénégal et au Cameroun. Ici à Joko Labs Douala, on va dire que Joko Labs est un hub d'innovation, un espace de coworking, un action tank qui développe plusieurs activités, qui soutiennent plusieurs startups. Notamment, les valeurs qui nous tiennent à cœur sont la culture, l'agriculture et les nouvelles technologies.
Quelle est la particularité de Joko Labs Douala par rapport à, aux autres Joko Labs qui sont dans d'autres pays? Et je le sais parce que moi, personnellement, je suis allé à Joko Labs à Dakar. Je pense que c'est le tout premier qui a été installé. Et je sais qu'il y en a d'autres dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest et en France aussi. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de Joko Labs Douala par rapport à, aux autres Joko Labs?
Alors, Joko Labs Dakar, oui, effectivement, c'est le tout premier. Joko Labs Douala existe depuis 2016, c'est l'année de création, mais ça a été véritablement lancé en 2017. Donc, du point de vue de Joko Labs Dakar, il y a une forte expérience déjà dans le domaine de l'incubation et de l'accompagnement des startups. À Joko Labs Dakar, on va dire la particularité, c'est effectivement les types d'entreprises qui sont incubées ici. Nous avons un volet avec la plateforme MGM, c'est-à-dire la galerie MAM et le salon littéraire MOS. La galerie MAM qui est spécialisée dans l'art contemporain africain, c'est-à-dire qui a pour vocation de promouvoir l'art contemporain africain. Et ensuite, le salon littéraire MOS qui, lui, accueille des intervenants à venir présenter leur dernier ouvrage, etc. Donc, il y a cette ouverture vers la culture et vers l'agriculture que ne développent pas forcément les autres Joko Labs. Donc, c'est une des particularités que nous avons ici. Et bien entendu, chaque Joko Labs partout où ils sont implantés a aussi des spécificités en fonction du pays dans lequel et le contexte économique dans lequel ils se trouvent dans le pays où ils sont basés.
Joko Labs s'installe dans un contexte camerounais et précisément celui de Douala où il existe déjà beaucoup d'espaces de coworking ou alors d'incubateurs. Vous, comment vous situez-vous vis-à-vis des autres espaces de coworking qui existent dans la ville de Douala?
Alors, déjà, de notre point de vue, il n'y a pas assez d'espace de coworking. C'est-à-dire que nous recevons régulièrement des demandes de startups qui ont envie de venir s'installer ici avec nous, de venir travailler avec nous. Nous n'avons pas forcément la possibilité d'accueillir tout le monde. On n'a pas des postes toujours disponibles. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas assez d'incubateurs. Il en faudrait beaucoup plus pour créer cette émulation-là. De notre côté aussi, alors il faut dire que les relations sont très cordiales entre ces différents incubateurs-là. D'ailleurs, nous faisons tous partie d'un mouvement qu'on appelle la Camertech, qui est en train de se mettre sur pied. On est en train de se regrouper justement pour, entre guillemets, protéger nos intérêts, et pouvoir avancer ensemble et être beaucoup plus efficace, je dirais, dans notre fonctionnement.
Ok, donc ça veut dire que vous êtes dans une relation inclusive avec les autres incubateurs de la ville de Douala. Quels sont les domaines dans lesquels interviennent les startups qui sont incubées chez Geocollabs à Douala?
Alors, il faut quand même rectifier un petit peu, parce que quand on parle d'incubation, c'est vrai que c'est un mot qui est lourd de sens. En ce moment, on va dire que nous faisons beaucoup plus du coworking que d'incubation. Nous sommes en train d'amorcer justement cette phase d'incubation. Donc, la première étape pour nous, c'est d'abord de structurer en fait les startups qui viennent à nous et qui ont envie de se structurer dans leur façon de je dirais, de présenter leur dossier, qui ont envie de postuler justement à des programmes d'incubation. La première des choses d'abord, c'est d'être structuré. C'est ces éléments-là qui permettent par la suite de pouvoir bénéficier d'un quelconque financement. Donc ça, c'est d'un. Et ensuite, les startups qui, pour la plupart, travaillent avec nous sont essentiellement basées pour l'instant, mais notre souhait, bien entendu, c'est d'avoir les domaines qui nous intéressent, la culture, l'agriculture et les nouvelles technologies. Ils sont beaucoup plus, je dirais, dans tout ce qui est trading, dans tout ce qui est marketing. Ça peut passer d'une agence de voyage à des projets, par exemple, de la communauté urbaine sur la ville durable. Nous avons aussi une entreprise qui travaille dans le recyclage des déchets électroniques. Et quoi d'autre comme ça que j'aurais oublié? Voilà, on a aussi des designers, des graphistes, des choses comme ça. Ouais.
Et vous avez parlé d'un volet très important qui est celui du financement. Alors, comment est-ce que les startups sont financées? Les startups qui sont installées ici à Geocollabs, comment est-ce qu'elles sont financées? Parce qu'on sait que, ça c'est une précision que je vais apporter, on sait que dans le domaine des startups au Cameroun, de manière générale, beaucoup de startups se financent par des participations à des concours qui leur permettent de gagner des prix et qui leur permettent d'avoir un accompagnement d'une structure, que ce soit camerounaise ou alors à l'étranger. Alors vous, ici, comment est-ce que ça s'organise en termes de financement des startups qui sont, entre guillemets, incubées ici?
Alors, les startups qui sont incubées ici, honnêtement, se financent grâce aux revenus qu'elles génèrent. Ce n'est pas forcément des prix, c'est vraiment des startups qui génèrent eux-mêmes leurs revenus et qui, par la suite, peuvent payer leur local pour pouvoir travailler. Après, nous aussi, on est plutôt compréhensif, je dirais. C'est-à-dire que, voilà, on ne va pas être super exigeant sur les délais, les deadlines de paiement de loyer. Alors on va essayer quand même d'étendre le truc et d'être un peu plus à l'écoute de savoir quels sont leurs besoins et leurs difficultés. Donc être un peu à l'écoute de ça et essayer d'apporter un minimum de flexibilité là-dedans.
Est-ce que les différents aspects que vous avez abordés en termes de start-up présentes et de domaines d'activité de ces start-up, est-ce qu'elles parviennent à s'entendre entre elles et à mener des projets communs?
Alors, l'entente est très, très, très cordiale. Là. Ça, c'est l'un des gros points forts de Geocollabs. Il faut que j'explique un petit peu le fonctionnement. Alors, notre principal mode d'activité, enfin, le mode d'activité, c'est que nous avons l'espace de coworking, c'est-à-dire l'open space, où nous avons toutes les startups qui sont réunies. Ils travaillent en cet espace-là. Ensuite, maintenant, quand vous avez besoin d'espace un peu plus privatif, vous pouvez vous retirer dans des salles qui sont aménagées à cet effet-là. Donc, en fait, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir tout le monde au même endroit et de pouvoir brasser, en fait, ces énergies-là et de pouvoir collaborer entre les différents médiums, les différents secteurs d'activité qui sont présents sur le site. Et voilà, on a, par exemple, l'expérience de gens qui sont passés d'une entreprise, enfin, comment je dirais, de leur projet individuel et qui se sont mis ensemble finalement pour réaliser quelque chose de commun. Ouais, on en a connu quelques-uns ici.
Quelles sont vos perspectives locales, internationales? Je prends ici le cas du Geocollabs Douala, d'abord dans un premier temps, et du Geocollabs, on va dire global. Je sais qu'il y a quelque temps, il y a un incubateur qui a été ouvert, un second incubateur qui a été ouvert au Sénégal, si mes souvenirs sont exacts. Alors, quelles sont vos perspectives?
Déjà de continuer ce processus d'incubation qu'on est en train de mener tout doucement. Par exemple, on est en train de travailler avec le cabinet d'avocats Chazet et Partners, où nous avons une formule d'accompagnement qui permet aux startups qui sont ici chez nous de profiter en fait de tout le cadre juridique pour pouvoir structurer leur dossier. Donc pour nous, en fait, c'est d'aller jusqu'au bout du processus d'accompagnement, c'est-à-dire que jusqu'à l'obtention peut-être des financements. Et ça, c'est un objectif de Geocollabs Douala, parce que c'est un peu au niveau où nous nous trouvons. En ce qui concerne Geocollabs Global, la priorité absolue, c'est de renforcer en fait le lien entre tous les différents Geocollabs et de pouvoir favoriser les échanges d'informations entre ces différentes ces différents pôles. Et donc, ce qui permettrait justement aux startups qui travaillent dans nos différents locaux de pouvoir s'échanger des informations, s'échanger des possibilités, voilà, un petit peu.
La dernière des dernières, si j'ai une startup, moi, je fais comment pour être accueilli chez Geocollabs Adola?
Première étape, c'est que j'ai besoin de savoir ce que vous faites. Ça, c'est l'élément le plus important. C'est sûr qu'on n'est pas intéressé par tout. On n'incube pas pour tout et n'importe quoi. Donc, la première chose d'abord, c'est de me présenter son projet. Après que vous avez fait cette présentation, il y a des adresses, des contacts où vous pouvez nous joindre. Et après quoi, nous étudions le dossier et voilà, on vous informe de toutes les modalités pratiques qu'il y a pour venir aider à Geocollabs. Voilà.
Ah, merci beaucoup, monsieur Mpado.
Merci à vous, merci à vous.
Mariana Janté est la représentante maître d'ouvrage du projet WICAM déployé au Cameroun par l'Association française Solidarité technologique. Noël Emenendame en est l'attachée commerciale. Les deux jeunes femmes nous parlent de ce projet qu'elles développent à Geocollabs, entre autres.
Bonjour, je suis Noël Emenendame de l'association Solidarité technologique basée au Cameroun et précisément à Yaoundé, au quartier Ewankam. Pour la direction et nous avons un bureau commercial à Douala dans les locaux de Geocollabs au consulat du Sénégal en face d'Alliance Assurance.
Bonjour, je m'appelle Malena Janté, je travaille aussi pour l'association Solidarité technologique et je suis également basée à Douala comme Noël. Je ne travaille pas sur les actions commerciales mais plutôt sur le développement de notre activité de recyclage à Douala puisqu'aujourd'hui nous sommes basés à Yaoundé et on aimerait créer un centre de traitement à Douala.
Est-ce que vous pouvez présenter de manière un peu sommaire votre structure?
C'est une association française, Solidarité technologique, qui cependant exerce seulement au Cameroun. Donc en fait, on a un conseil d'administration en France et toute notre activité est basée au Cameroun. On fait du recyclage de déchets électroniques et électriques. Donc recyclage, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux activités dans ce recyclage. Il y a d'une part le reconditionnement, donc si on reçoit des équipements qui ne fonctionnent plus mais qui sont réparables, enfin en tout cas que nous pouvons réparer, dans ce cas on les répare et on les revend dans notre magasin Yaoundé, soit on reçoit des équipements qui ne sont pas réparables et dans ce cas on les démantèle. Le démantèlement c'est du coup séparer tous les matériaux en fractions les plus pures possibles pour ensuite pouvoir soit les éliminer si c'est des fractions toxiques, soit les revendre si c'est des fractions qui ont de la valeur, puisque les déchets électroniques, c'est composé à la fois de matériaux qui ont beaucoup de valeur, comme le cuivre, différents métaux, l'or, l'argent, l'aluminium, le fer, mais aussi des matériaux qui polluent l'environnement et qui sont toxiques pour la santé des utilisateurs. Donc il y a beaucoup d'interrupteurs au mercure, tous les gaz frigorifiques qu'il y a dans les frigos, les plastiques, certains plastiques qui contiennent des retardateurs de flamme, les plastiques bromés, etc. etc.
Alors, j'aimerais savoir d'où proviennent les déchets que vous reconditionnez, alors que vous recyclez.
Alors, il faut noter que nous proposons nos services, nous avons une clientèle essentiellement corporate pour le moment, c'est-à-dire les entreprises. Nous proposons notre service aux entreprises. C'est-à-dire nous allons vers les entreprises productrices de ce type de déchets que nous appelons les D3E, les déchets électriques et électroniques. Donc nous allons leur proposer ce service afin de les débarrasser de tout ce qu'ils ont comme appareil fonctionnant avec l'électricité ou une batterie.
Donc en gros, les déchets que vous traitez proviennent des entreprises camerounaises?
Effectivement.
Un ajout, oui.
Noël travaille dans le bureau commercial, donc toute cette partie-là avec les entreprises. Et à Yaoundé, aujourd'hui, on est en train de lancer en phase test des points de collecte pour les ménages. Donc pour les entreprises, on vend du coup la prestation de recyclage écologique des déchets électroniques, puisque depuis 2012, la loi camerounaise oblige chaque entreprise qui crée des déchets, produit des déchets électroniques à payer pour leur traitement par un organisme agréé. Donc ça, c'est une partie. Et après, l'autre partie qu'on est en train de tester seulement, mais qui devrait être fonctionnelle d'ici mi-2020, c'est la collecte auprès des ménages. Donc ça, par contre, c'est des points de collecte qui sont, pour l'instant, répartis dans la ville de Yaoundé et qui sont des conteneurs 40 pieds, en fait, des sortes de petits magasins où les ménages qui habitent autour peuvent venir avec leurs déchets électroniques et nous, on leur donne une petite compensation pour les inciter à venir nous donner leurs déchets.
Dans votre travail au quotidien, est-ce que vous avez des rapports avec l'administration publique ou alors avec l'État du Cameroun ?
Bon, alors, moi personnellement, du coup, Malena qui travaille sur le développement du projet à Douala, c'est-à-dire la construction en fait d'une usine de traitement de déchets électroniques à Douala, plus précisément à PK24, où j'ai eu beaucoup d'échanges avec la communauté urbaine de Douala, puisque c'est un projet qu'on fait en partenariat avec eux. Donc dans mon activité personnelle, oui.
Voilà, il faut également noter que nous travaillons avec le ministère de l'Environnement qui encadre cette activité de recyclage des déchets électroniques. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va effectuer une collecte auprès d'une entreprise, on récupère un document auprès du ministère de l'Environnement qu'on appelle le manifeste de traçabilité.
Alors, j'ai une question au sujet des déchets. Ceux que vous ne parvenez pas à recycler, ça veut dire à remettre dans le circuit d'une manière ou d'une autre, donc qui sont bons à jeter en fait. Quel est le chemin que ces déchets empruntent? Où est-ce qu'ils finissent?
Comme Malena vous a expliqué tout à l'heure, il y a deux orientations possibles qu'on donne à ces déchets lors du traitement. Il y a la première orientation qui est de leur donner une seconde vie, qui est d'ailleurs la plus recommandée. Et la deuxième orientation est ce qu'on appelle chez nous le démantèlement, qui consiste à détruire l'équipement et à y extraire des matériaux qu'on va rediriger chez certaines entreprises comme matière première.
Aujourd'hui, vous travaillez dans les locaux de Jocolabs à Douala. J'aimerais savoir ce qui vous a poussé, vous, en tant qu'association, à rejoindre cet espace de coworking et cet incubateur.
En fait, initialement, notre activité est basée à Yaoundé. On a le centre de traitement à Yaoundé. Toute notre activité de recyclage est faite à Yaoundé. Cependant, au moment du lancement de l'activité en 2011, on s'est rendu compte que la plupart des grosses entreprises camerounaises avaient des bureaux à Douala. Donc, la collecte des déchets électroniques auprès des entreprises, finalement, elle avait du sens à Yaoundé, mais elle avait encore plus de sens à Douala. Donc il a été décidé d'ouvrir un bureau commercial à Douala pour lancer cette activité. Et on a cherché des locaux pour ça. Et finalement, après recherche, c'est l'espace de Jocolabs qui s'est mis en haut de la liste, je pense, d'une part pour son accessibilité financière, d'autre part parce que c'est des locaux qui sont agréables, qui permettent d'échanger avec les collaborateurs, qui permettent d'avoir... Il y a des différentes salles de réunion où on peut accueillir des clients, et on peut faire des réunions entre collaborateurs également, et c'est bien placé à Bonanjo. Et aussi le fait que comme c'est une activité commerciale, c'est bien d'être en contact avec des personnes qui sont d'autres entreprises pour avoir un peu des échanges, des retours, et voir comment on peut vendre notre service de la meilleure manière possible. Voilà.
Vous êtes dans un espace de coworking, ce qui suppose que vous êtes en collaboration directe ou indirecte avec les autres entreprises ou les autres organismes qui travaillent aussi ici à Jocolabs. Est-ce que vous avez déjà eu à mener des projets ensemble?
Alors, jusqu'ici, non, pas encore mené de projet avec ces différentes entreprises. Peut-être que ça viendra à l'avenir, qui sait. Mais pour l'instant, on entretient uniquement la collaboration de partage de cet espace de travail.
Et alors, et à terme, vous comptez faire comment? Rester à Jocolabs pendant 10 ans ou développer d'une manière ou d'une autre?
Du coup, ma tâche première, c'est de construire une usine. Donc le jour où l'usine sortira de terre, c'est-à-dire on espère d'ici un an, je pense que, en tout cas, la majeure partie de nos employés migrera là-bas. On ne s'est pas encore décidé ensuite. Il faudra que, certainement, on ait un bureau commercial dans le centre-ville. Si ça reste à Jocolabs ou si les bureaux changent, c'est encore à déterminer. Mais je pense que 10 ans, c'est une longue période pour rester à Geocollabs. Peut-être encore 2 ans ou 3 ans, le temps de développer notre activité à un peu plus grande échelle à Douala.
Je suppose que Geocollabs est très content du fait que vous soyez ici, chez eux, quoi.
Je suppose que oui, j'espère.
J'espère que oui, parce que jusqu'ici, on n'a eu que des retours positifs. Donc, je pense que s'il y avait eu des désagréments avec ou des mésententes avec Geocollab, il n'aurait pas manqué de nous le faire savoir.
Ok, alors, et si on veut vous contacter, comment ça se passe? Vous avez un site web ou une adresse électronique ou une adresse postale ou... En dehors du fait de se déplacer physiquement chez Geocollabs?
On a un site web, solidarité-technologique.cm, où on présente notre activité et les différents services qu'on offre aux entreprises. Et ensuite, chaque collaborateur a une adresse mail sur laquelle on peut nous contacter et on a aussi un numéro de téléphone.
Bah, merci beaucoup et bon courage.
Merci.
Merci.
Bon courage à vous.
Bonjour à tous, je suis Franck Dakaï, je suis le fondateur, promoteur et gérant de l'entreprise Hills Travel Service, qui est une agence de voyage digitale. Nous proposons des services de billets d'avion, location de voiture, appartements meublés, assistance visa, organisation de séjours touristiques et excursions touristiques au Cameroun et à l'étranger.
Votre entreprise Hills Travel Services, elle existe depuis combien de temps?
Alors, sous cette forme, elle existe depuis 2 ans. Sous cette forme, parce que au départ, nous créons l'entreprise avec pour objectif d'être une entreprise B2B, c'est-à-dire de créer des services pour les agences de voyage. Donc, les agences de voyage, je vais dire traditionnelles, vendent des billets d'avion. Donc, il y a rarement beaucoup plus de services que ça. Donc, nous, au départ, on s'est dit, on va créer des services qui ne nécessitent pas de financement et d'investissement pour ces agences de voyage. Donc, pouvoir leur permettre de faire de la location de voiture, de la location d'appartements meublés sans pour autant être propriétaire, sans pour autant investir dans une plateforme. Donc, on s'est dit, on va construire une plateforme et faire plein de services qu'on mettra à disposition des professionnels qui pourront vendre ces services-là. Et après 2 ans dans cette direction, soit le produit n'était pas adapté, soit nous avons pas pu convaincre, mais au final, on s'est retrouvé avec juste quelques agences. Et on n'a pas réussi à voir le gros des agences qui allaient faire évoluer la plateforme. Donc, il y a 2 ans, on a effectué notre mue. On est passé de fournisseur de services aux agences de voyage à l'agence de voyage digitale et moderne que nous voulions voir naître chez les autres agences de voyage.
Si je comprends bien votre propos, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'assistance, bien dans le support des agences de voyage, mais vous vendez des titres de voyage, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, nous ne sommes plus fournisseurs de services pour les autres agences. Nous sommes nous-mêmes une agence de voyage. Et tous les services qu'on voulait créer pour les autres agences de voyage, on les crée pour nous-mêmes maintenant. Et on essaie d'apporter à chaque fois des innovations, de nouveaux produits qui n'existaient pas avant ou qui étaient très peu répandus chez les autres agences de voyage.
Alors du coup, est-ce que vous parvenez à avoir de la clientèle et est-ce que votre activité évolue comme vous le souhaitez? Ou alors, si vous avez des difficultés, quelles sont-elles? Est-ce que ce sont les mêmes que celles d'une agence voyage traditionnelle ou alors vous avez des défis nouveaux qui sont liés au fait que vous soyez une start-up et que vous travaillez surtout dans le domaine digital?
Alors, en termes de clients, quand on a un produit qui est nouveau, quand on amène une nouvelle façon de faire, il faut toujours s'attendre à ce que ce soit un peu difficile. Donc, il y a un travail d'éducation qu'il faut faire. Il faut habituer les gens à ce mode de consommation. Donc, nous, par exemple, nous vendons les billets, nous vendons les séjours touristiques à des gens qui sont hors de Douala, qui ne nous rencontrent pas Et au début, il y avait du mal à convaincre. Quand quelqu'un veut acheter son billet, que ça coûte 400 000, 500 000, déjà qu'il y a Orange Money qui était, on peut dire, nouveau. Ensuite, vous demandez aux gens d'utiliser un nouveau service comme Orange Money ou les autres moyens de paiement mobiles et de vous faire un envoi de 400 000 à une agence que vous ne connaissez pas et que vous n'avez jamais rencontrée. C'était un peu difficile de convaincre. Mais après 2 ans, le nombre de transactions que nous faisons par les moyens de paiement mobile s'est multiplié par 3 en 2 ans. Donc, au départ, il y avait des gens qui venaient ici, qui nous prenaient en photo pendant qu'on faisait le billet d'avion, parce que ça ne ressemble pas à une agence de voyage traditionnelle. Ça fait 2 ans et demi qu'on existe sur les réseaux sociaux, donc les gens commencent à s'habituer à notre présence et les gens commencent à comprendre ce mode de fonctionnement. Donc, un message sur WhatsApp, un message sur Facebook, et puis c'est réglé en quelques minutes. Au départ, nous avions pris la direction de faire une application mobile. Mais l'aventure s'est avérée non concluante parce que ça faisait trop de nouveautés tout d'un coup. C'est-à-dire payer sa prestation à distance par un paiement mobile nouveau, à travers une application nouvelle, ça faisait trop de nouveautés. Et au final, quand on avait l'application mobile, la plupart des gens revenaient toujours sur WhatsApp pour poser 1 ou 2 questions avant de conclure l'achat. Donc, nous avons pris la direction de faire d'abord WhatsApp et réseau social. Maintenant que les clients sont habitués à faire des paiements à distance, la prochaine étape, c'est le site web que nous avons lancé il y a quelques semaines, où on va diriger tout le trafic WhatsApp et Facebook vers le site web pour un peu plus automatiser les transactions. Une fois que les gens se seront habitués à travailler avec le site web, on passera maintenant à l'application mobile pour essayer d'automatiser encore plus les transactions et pouvoir arriver à l'objectif qu'on s'était fixé au départ, faire des transactions pendant qu'on dort.
Vous, en tant qu'agence de voyage, parce que vous l'êtes déjà, quelles sont les garanties que vous accordez à la clientèle qui prend les billets d'avion ou bien les billets de voyage chez vous ?
Le client, au moment de l'achat, est au courant des conditions du billet qu'il s'apprête à prendre. Donc, dans le cas d'une annulation par la compagnie, généralement, la compagnie rembourse totalement. Ce processus prend plus ou moins du temps. Chez cette compagnie, ça se fait en 24 heures. Chez d'autres, ça prend jusqu'à 3 semaines. Donc, quand un client prend un billet chez nous, et qu'il y a une annulation, un remboursement, nous suivons la procédure jusqu'à son remboursement. S'il a payé par Orange Money, il peut être remboursé par Orange Money sans jamais avoir besoin de venir dans nos bureaux.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi Jocolabs comme espace de coworking et comme incubateur pour votre entreprise?
Sans investissement majeur initial, sans une longue procédure de recherche, travaux et autres, vous décidez, vous venez rencontrer les responsables de Jocolab, quelques jours après, vous lancez votre entreprise. Donc, c'est vraiment tombé à pic. Parce que quand on commence, on n'a pas de clients, on n'a pas de revenus. Donc, déjà, les charges que vous avez comme entreprise, c'est les salaires, la communication et autres. Si vous devez encore ajouter 1 an de loyer, ça fait beaucoup. Et ce n'est pas toujours possible pour les petites entreprises de commencer comme ça. Donc, avec Ease, quand on a commencé à Jocolab, ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on est à Jocolab. On avait 3 collaborateurs et on n'avait que les frais pour l'espace que nous payions à Jocolab. Et c'était vraiment optimal de pouvoir commencer comme ça et de n'avoir pas d'investissement à faire en ce qui concerne le cadre. Donc, c'est ça qui nous a amené chez Jocolab. Et ce qui nous fait rester pendant 2 ans chez Jocolab, c'est vraiment l'appui qu'ils apportent aux entreprises qui sont ici. Donc, ce n'est pas on n'est pas juste des locataires, une relation de locataire à bailleur. C'est une relation de bailleur, de consultant, de conseil, de client même, parce qu'ils sont aussi clients chez nous. Donc, quand on travaille avec des entreprises, quand on se lance, il peut y avoir des moments où trésorerie, vous êtes un peu serré. Et à Jocolab, on ne va pas vous dire que, OK, bon, là, vous n'avez pas payé, là, vous ne pouvez plus venir et tout ça là. Donc, il y a de la compréhension. Il y a les promoteurs qui sont eux-mêmes des entrepreneurs. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez parler de vos problèmes et avoir des débuts de solutions et tout. Jocolab, c'est juste à côté de la galerie MAM. La galerie MAM, c'est un espace, c'est une galerie, comme son nom le dit. Et à la galerie MAM, il y a tout le temps des événements. Il y a des événements de Hotalk, de l'agence de Omencar qui a fait des Hotalk là, qui étaient des rencontres avec des entrepreneurs. Il y a Total qui fait des rencontres avec des entrepreneurs. Il y a plein de petits événements comme ça qui permettent de venir, d'apprendre. Parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, il faut tout le temps apprendre de ceux qui ont plus d'expérience, de ceux qui sont passés par les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui pour trouver des débuts des solutions.
Je vais poser une question, je vais dire, administrative. Uh-huh. Et au niveau des impôts, quels sont vos rapports avec le système fiscal, je vais le dire comme ça, le système fiscal camerounais? Est-ce que vous parvenez à gérer correctement les questions d'imposition, de taxes et tout vis-à-vis de l'administration publique camerounaise?
Alors, pour ma part, j'ai dû apprendre un peu dans la douleur. Parce que dans une première entreprise que j'ai créée, à la fin de l'année fiscale, j'ai déposé la DSF, le document statistique et fiscal en retard, et j'ai eu une amende de 1 million à payer pour cette entreprise-là. Donc depuis, quand on s'est brûlé les doigts, on fait attention au feu. Donc maintenant, l'administration fiscale, on comprend qu'on doit faire ses déclarations sans faute chaque mois. On comprend qu'à la fin de l'année, il faut payer sa patente, il faut faire sa déclaration statistique et fiscale de l'année et tout. Donc ça, c'est vrai qu'il faut start-upper, il leur faut toujours des formations dans ce domaine-là parce que parfois, on crée une entreprise, on se dit « bon, j'ai pas encore d'activité, j'ai rien à faire ». On oublie qu'il faut faire des déclarations chaque mois. Il faut aller dans son centre d'impôt dire « j'ai pas fait de chiffres, je suis un néant ». Et que c'est important parce que les amendes dans ce sens-là, ça va très vite. Donc, l'avantage aussi d'être dans un incubateur, dans un espace comme Jocolab, c'est que vous avez quelqu'un à qui poser la question si vous ne connaissez pas. Donc, si vous avez créé une entreprise, nous, par exemple, nous sommes une société à responsabilité limitée. Donc, vous voulez savoir quelle est la structure qui est la mieux adaptée pour vous. À Jocolab, vous avez d'autres entrepreneurs qui sont là. Vous avez les responsables de Jocolab qui sont là. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez discuter et trouver la meilleure formule pour vous. Et dans l'évolution de l'entreprise, quand on évolue avec son entreprise, les erreurs à ne pas commettre, quand on fait des factures aux entreprises, comment faire des déclarations de TVA, ainsi de suite. C'est quand on se lance, c'est bien d'être entouré parce que on a beau savoir qu'il faut faire des déclarations chaque mois, il y a des petits pièges qu'il y a à éviter le long de son parcours. Quand on traite avec une entreprise, par exemple, qui fait la retenue à la source, comment établir sa facture et ressortir la partie qui est taxable. Donc là, je prends des exemples où je me suis brûlé les doigts. C'est pour ça que j'en parle. Et c'est bien d'avoir autour de soi des entrepreneurs à qui on peut poser la question, qui pourront vous dire avant d'arriver devant le feu, « Ah, fais attention à ça, la direction que tu prends là, c'est dangereux. » Donc, c'est important, quand on se lance, d'être dans un espace comme Jocolab.
Et d'ici combien de temps vous comptez, en quelque sorte, voler de vos propres ailes, avoir votre propre local et, je pense, aussi développer de manière beaucoup plus exponentielle vos activités?
Alors, comme j'ai dit, ça fait 2 ans qu'on est chez Jocolab. On a commencé, on était 3 personnes. 2 ans plus tard, nous sommes 8 chez Jocolab. Et pour arriver déjà à ce chiffre, il a fallu, en quelque sorte, prendre une autorisation parce que pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, les entreprises qui viennent sont limitées à un certain nombre de personnes. Mais comme j'ai dit dans mon propos, il y a une oreille qui écoute. Donc, on est allé les voir, on leur a dit « Ok, notre entreprise grandit, ce qu'ils aiment entendre parce que c'est pour ça qu'ils sont là ». Nous voulons passer à 8 personnes, nous sommes à 8. Et là, dans 3-4 mois, nous prendrons des bureaux et une agence commerciale dans le quartier d'affaires de Douala Akwa ou Bali. Donc, on aura fait au total 2 ans et quelques mois à Jocolab. Et ces 2 ans, vraiment, il faut encore le dire, c'est vraiment 2 ans où vous savez chaque mois ce que vous payez. En tant que petite entreprise, c'est vraiment important de savoir que chaque mois, je paye X montant pour mon espace de travail. Quand vous êtes à votre compte, vous avez certes votre loyer, vous avez une facture d'électricité, vous avez le gardiennage, vous avez les délestages, vous avez X, Y. Donc, c'est beaucoup de variables à gérer quand on a une petite entreprise. Donc, c'est encore une fois, à Jocolab, il y a un groupe électrogène, le gardiennage est assuré, il y a une imprimante, il y a le Wi-Fi. Donc, il y a toutes ces petites choses-là qui facilitent la vie pour un jeune entrepreneur. Donc, 2 ans, ça nous a permis de mûrir, de trouver notre business model. Et maintenant que le business model est trouvé, il est question maintenant de grandir, de prendre des bureaux, une agence commerciale qui ressemble un peu plus à une agence de voyage, qui rassurera un peu plus nos clients. Et de voler de nos propres ailes. Donc, ce sera dans 3-4 mois.
Quelques jours après l'enregistrement de ces entretiens, j'ai rencontré Franck et nous nous sommes entretenus sur les nouvelles du développement de son entreprise. Compte tenu de la pandémie du Covid-21, provoquée par un coronavirus et qui frappe de plein fouet les secteurs du transport et du tourisme. Comme vous pouvez l'imaginer, les nouvelles ne sont pas bonnes pour lui et il envisage de revoir un certain nombre de ses projections à la baisse. Je vous remercie d'avoir écouté cette première édition de mon podcast N.com. Vous retrouverez les prochains numéros ainsi que mes articles sur mon site web nkowa.com. Merci et à bientôt.